Donc nous allons aborder donc la période 1512-1527 avec cette première restauration des Médicis. Enfin, donc une nouvelle fois, c'est la guerre qui provoque le bouleversement à l'intérieur de la cité. Une nouvelle fois. Vous savez donc pendant la période qui va de 1503 à 1512, on avait une situation meilleure pour Florence, puisque toute une série de menaces externes avaient disparu avec la mort d'Alexandre VI, la sortie de l'histoire de Cesare Borgia, la trêve entre la France et l'Espagne, la mort de Piero dei Medici en 1503. Mais la reprise des guerres en Italie et la défaite des Français en 1512 vont amener ce nouveau bouleversement. C'est lié aussi au fait que Piero Soderini, le gonfalonier à vie, avait maintenu l'alliance traditionnelle de Florence avec la France, ce qui l'avait amené à une opposition assez grande avec le pape Jules II, en particulier parce qu'il avait autorisé la tenue à Pise, sur le territoire florentin, redevenu florentin après la prise de Pise en 1509, la reprise de Pise en 1509, de quelque chose que l'histoire retient comme le conciliabule de Pise. Enfin, il y avait vraiment quelques cardinaux pro-français qui s'y étaient réunis, et on avait dû le lever très peu de temps après son entrée en fonction. Du coup, le pape Jules II s'était rapproché des Médicis, en particulier du cardinal Giovanni de' Medici, et il manquait l'occasion. L'occasion vient après une bataille que les Français gagnent en apparence, puisqu'il s'agit de la bataille de Ravenne en 1512, sur laquelle on aura l'occasion de revenir quand on parlera de Machiavel, puisque c'est un des exemples de combat important dans la réflexion de Machiavel. Mais à cette occasion, les Français, en fait, perdent leur général Gaston de Foix, qui avait gagné la bataille, mais il meurt sur le champ de bataille. Et les Français battent en retraite et abandonnent la Lombardie aux piquiers suisses qui ont été recrutés par Jules II. C'est à ce moment-là qu'une armée espagnole entre en Toscane, met à sac la ville de Prato, c'est l'épisode du sac de Prato, à la fin du mois d'août 1512. Et là, à l'intérieur de Florence, il y a une espèce de petite conjuration contre Piero Soderini qui est contraint de quitter, sous la menace, la cité. Alors, il y a un moment là de négociation entre donc les grandes familles florentines et le cardinal Giovanni de' Medici pour demander le maintien de la République et pour instaurer donc une forme de gouvernement oligarchique, républicain mais oligarchique. Et pendant un temps, le cardinal Giovanni de' Medici fait mine donc d'accepter le maintien de la République et de se contenter, suivant les termes de Francesco Guicciardini, de la restituzione dei suoi e di tutti quelli che l'avevano seguitato alla patria come privati cittadini. Et donc, on pense pendant un instant qu'il va y avoir simplement quelques modifications institutionnelles. Par exemple, un gonfaloniera pour un an et l'institution de quelque chose qui serait un sénat. Vous savez que c'est un des points sur lesquels Hein, les grandes familles florentines restent accrochées à l'idée qu'il y ait au centre, hein, entre le Grand Conseil et la Signoria, le Gonfalonier, une instance qui soit leur instance, hein, l'instance des uomini da bene. Hein, voilà. Comme le dit très clairement dans la Storia d'Italia, livre 11, chapitre 5, Francesco Ciardini, troppo erano trascorse le cose, troppo potenti i nemici aveva la pubblica libertà, nelle viscere del dominio l'esercito sospetto, hein, ces espagnols qui viennent de mettre à sec la ville de Prato, dentro i più audaci della gioventù cupidi d'opprimerla, opprimere la libertà, e la medesima era, benché con le parole dimostrasse il contrario, la volontà del cardinale de Medici. Donc en fait, ça dure très peu de temps, hein, cette hypothèse de la remise en place, du maintien de la République, puisque le 14 septembre, Giovanni de Medici fait entrer des troupes dans la ville, s'empare du palais de la Signoria, contraint la Signoria à convoquer un Parlamento dès le 16 septembre. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que le Parlamento décide qu'il va y avoir une balille, hein, donc cette instance du pouvoir extraordinaire, où il n'y aura évidemment que des partisans des Médicis, et cette balille a rétabli la forme du gouvernement d'avant 1494, en particulier en supprimant le Grand Conseil, le Conseil des 80 et la Milizia. Non, j'avais pensé l'avoir mis, mais commentaire de Guicciardini, in tale modo fu oppressa con l'armi la libertà dei fiorentini. Alors, voilà, hein, le texte dit assez clairement les choses. Donc, c'est intéressant parce que vous avez tous les éléments du Parlamento. Il sulla piazza del Palazzo, hein, convoco subito, col suono della campana grossa, il sulla piazza del Palazzo, il popolo a Parlamento, dove quelli che andorno, essendo circondati dall'armi dei soldati e dei giovani della città che avevano preso l'armi per i medici, consentirono, donc là, vous voyez, consentirono, évidemment, le terme a toute sa saveur ironique, puisque entouré par des hommes armés, hein, le peuple, appelé au Parlamento, accepte che circa 50 cittadini nominati secondo la volontà del cardinale fosse data sopra le cose pubbliche la medesima autorità che aveva tutto il popolo, chiamano i fiorentini questa potestà così ampia balia, dunque Parlamento, homme en arme autour, acceptation de la balia, e la balia ramène le gouvernement a quella forma che soleva essere innanzi all'anno 1494, è messa una guardia di soldati ferma al palazzo, on sait jamais, voilà. Ripigliorono i medici con la medesima grandezza, avec une différence, hein, vous souvenez que c'est cette différence que note Bernardo del Nero dans le dialogue del Reggimento, quand il dit attention, s'ils reviennent, ça ne sera pas aussi mansueto, hein, vous savez qu'avant c'est tyranni de mansueta, mais s'ils reviennent, ils ne seront pas aussi mansueti qu'avant, hein, governandola più imperiosamente e con arbitrio più assoluto che soleva avere il padre loro. Voilà. E commentaire, in tale modo fu oppressa con l'armi la libertà dei fiorentini. Ce point du con l'armi est à prendre au sens strict, hein, à prendre au sens strict. Un texte de ce moment-là, hein, de quelques mois après, donc c'est un texte de conseil d'un des membres de la famille Vettori, Paolo Vettori, qu'il écrit donc à Giovanni de Medici, au cardinal, hein, où le texte dit clairement, hein, quelle est la ligne à suivre. Donc, vos ancêtres, etc., eux, usorno in tenere questo stato più industria che forza. Hein? Donc, industria dans le sens comme ça, de, hein, travail politique, conviction, se faire des amis, ne pas trop attaquer les autres, sauf en cas de nécessité, etc. A voi è necessario usare più forza che industria. Et la conclusion est très très claire. Il faut que les ennemis aient peur. Hein, et la façon, c'est d'avoir cette garde, hein, dont parlait Guicciardini dans le texte précédent, cette garde armée à l'intérieur de la cité. Et ce qui est intéressant, c'est que Paolo Vettori explicite la raison pour laquelle il y a les ennemis, enfin, il y a des ennemis des Médicis. Et, hein, il le dit dans ce même discorso à Giovanni de' Medici. Voi avete a intendere che gli 10 anni passati la città è stata benissimo. Alors, il élargit un peu, mais c'est vrai qu'à partir de 1503, c'est-à-dire une fois que la crise avec César Borgia est passée, qu'il y a la mise en place du Gonfaloniere à vie, il y a une période de vraiment de prospérité économique, de calme intérieur, de tranquillité, etc. Et Paolo Vettori commente, in modo che sempre la memoria di quel tempo vi farà guerra. Hein. La memoria di quel tempo vi farà guerra, avec cet enjeu important, enfin, de la mémoire du Grand Conseil, de la mémoire de la République du Grand Conseil, qui joue, on peut dire en permanence, un rôle de référent, un rôle de modèle. Hein. C'est à l'aune de l'expérience du Grand Conseil que les Florentins jugent les fonctionnements politiques. Et on va avoir ce rapport à cette mémoire-là, ou pour prendre une autre expression qui est employée par Francesco Guicciardini, le goût du Grand Conseil reste à Florence. En gros, voilà, c'est fini dans la dernière période, entre 1530 et 1537, là, en 1537, avec l'élection de Combes Ier, c'est fini complètement. Hein. Alors, un ricordo de Guicciardini, qui est le 38, hein, nous dit tout ça avec toute une série de concepts importants. Donc, la première idée, c'est donc que c'est difficile. C'est écrit en 1530, ça. Hein. C'est difficile pour les Médicis. C'est plus difficile maintenant, alors qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'avant, et qu'en particulier, ils ont eu deux pontifes, deux papes, pratiquement l'un après l'autre, Léon X puis Clément VII. Difficile conservare lo stato di Firenze. Bien plus que ça ne l'a été pour Côme l'Ancien. Voilà. Alors, un des concepts clés de cette période, hein, que je vous répète, je vous bassine avec ça, mais bon, clé, c'est sous la forme guichardinienne, la condizione dei tempi. Hein. La condizione, qui est le même sens, la conjoncture, les enjeux d'une conjoncture, qu'on trouve quand on a la qualité dei tempi chez Machiavel. Hein. Vi concorse la condizione dei tempi, avendo Cosimo avuto a combattere lo Stato con la potenza di pochi, senza displicenza dello universale, avec ce concept, hein, l'universale, qui est donc la grande majorité des citoyens, mais qui ne comprend donc ni la fraction la plus puissante, la plus haute, la fraction dominante, ni évidemment la plèbe, hein, l'universale, nel quale allora, à l'époque de Cosimo, non conosceva la libertà, voilà. Ma oggi, essendo stato gustato il Consiglio Grande, hein, et vraiment cette idée de ce goût, hein, qui est évidemment très semblable à l'expression « la memoria di quel tempo vi farà guerra hein, » de Paolo Vettori, voilà, ce gusto, essendo stato gustato il Consiglio Grande. Voilà. Alors, donc c'est ça la nouvelle situation. Dans un premier temps, à Florence, c'est le frère du cardinal Giovanni de' Medici, Giuliano, hein, Giuliano de' Medici, que nous on connaît parce que c'était le premier Médicis auquel Machiavel avait pensé qu'il allait dédicacer le prince. Et donc c'est lui qui joue le rôle de chef du gouvernement florentin. Hein. Alors, il se passe un moment extrêmement important qui est l'élection pontificale du cardinal Giovanni de' Medici, puisqu'il est élu le 11 mars 1513. Et il prend le nom, comme vous le savez, de Léon X. Et à ce moment-là, il appelle Giuliano à Rome. Et donc, c'est le fils de Piero, Lorenzo di Piero, qu'on appelle généralement Lorenzo il Giovane, qui lui succède à Florence. Il est encore jeune, puisqu'il est né en 1492, et donc, un autre Médicis, et le futur Clément VII, Giulio de' Medici, qui était un enfant du frère cadet de Lorenzo, hein, un enfant naturel du frère cadet de Lorenzo il Magnifico, donc Giuliano de' Medici, qui a été tué au moment de la Congiura dei Pazzi en 1478, et c'est donc Giulio de' Medici qui est nommé archevêque de Florence, qui est nommé cardinal et joue un rôle déterminant dans la politique de Florence, au point que lorsque Lorenzo il Giovane meurt en 1519, c'est le cardinal Giulio de' Medici qui représente la famille des Médicis à Florence et dirige de fait la cité. À son tour, donc en 1523, le 18 novembre 1523, Giulio est élu cardinal. Il prend le nom de Clément VII. Et ce sont deux très jeunes Médicis, hein, les derniers descendants de la branche principale de la branche de Côme de la famille, qui sont envoyés à Florence pour représenter la cité. Il s'agit de Ippolito de' Medici et de Alessandro de' Medici. Et en fait, ils ont quelqu'un qui leur sert de conseiller et de chef réel du gouvernement, qui est donc le cardinal de Cortone, qui dirige Florence, en suivant des directives qui sont en fait élaborées à Rome, hein, par le pape Clément VII et ses conseillers, cardinal de Cortone, dont le nom est Silvio Passerini. Alors, le système de gouvernement, hein, est assez semblable au système des Médicis d'avant 1494. Il est résumé en comme ça, une formule assez simple et efficace par von Albertini, qui dit « Questo sistema di governo consisteva nell'abile impiego di istituzioni repubblicane ancora provvisoriamente esistenti a favore di una politica sostanzialmente autoritaria che si basava su una cerchia di amici e di seguaci. » Alors, hein, toute cette période-là qui va durer jusqu'à ce qu'une nouvelle fois les événements extérieurs et les guerres d'Italie bouleversent à nouveau la cité et fassent réémerger l'hypothèse du Grand Conseil et de la République après le sac de Rome en 1527. Hein, on a donc cette période de système. Le système des Médicis. Alors c'est bien à l'intérieur de ce moment qu'il va falloir, qu'il faudra analyser les textes comme Le Prince. Hein. Le Prince écrit en 1513, puisqu'on a la lettre à Francesco Vettori de décembre 1513, disons qu'il vient de l'écrire. L'idée qu'il ait écrit aussi, pas seulement, mais aussi pour reprendre pied auprès des Médicis avec cette hypothèse de la dédicace à Giuliano de' Medici qui deviendra une dédicace à Lorenzo Giovane. Hein. Le Dialogo del Reggimento di Firenze est également écrit vers la fin, plus tardivement dans cette période, mais à l'intérieur de cette période. Hein. Puisqu'il est écrit entre 1521 et 1525, ces textes-là sont à resituer dans les interrogations que fait naître ce moment historique. Hein. Et ce ne sont pas les seuls, il y a une floraison d'autres textes. Parmi eux, un texte qu'on regardera d'un peu plus près, écrit à l'incitation du cardinal Giulio de' Medici en 1519, après la mort de Lorenzo Giovane, hein, parmi ses textes, le Discursus Florentinarum Rerum de Machiavel. Et là, ce qui est intéressant, c'est dans cette demande, c'est que dans cette demande de Giulio de' Medici, celui qui sort, évidemment, celui dont on se souvient, c'est le texte de Machiavel, Discursus Florentinarum Rerum, mais il y en a toute une série d'autres, hein, qui ont été publiés depuis la fin du XIXe siècle, par exemple, Discorso d'Alessandro de Pazzi, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le cardinal n'hésitait pas à demander un avis, y compris à des gens dont on pouvait penser qu'ils étaient extrêmement liés à la tradition républicaine. Et en particulier, donc, la demande faite à Machiavel ou à Alessandro de Pazzi hein, montre bien qu'il n'hésite pas à demander aux personnes qui se réunissent donc, dans les jardins de la maison des Rucellai, hein, gli Orti Oricellari, dont on reparlera quand on abordera Machiavel, mais qui joue un rôle donc important du point de vue culturel et politique. Hein. Donc c'est des réunions informelles, enfin qui se sont tenues. Dans un premier temps, entre 1502 et 1506, à l'initiative donc de Bernardo Rucellai, hein, et qui jouait un peu le rôle d'une espèce d'opposition à Piero Soderini. Et puis, ce groupe recommence à avoir une activité qui mêle la réflexion politique avec la littérature et l'érudition à partir de 1513. Donc désormais, ce n'est plus Bernardo Rucellai qui anime ces discussions, mais ses fils, Palla e Giovanni Rucellai, et son petit-fils, Cosimino Rucellai. Hein, Cosimino Rucellai. Vous savez que un des textes très importants de Machiavel, puisque c'est son Arte della Guerra, se présente comme le récit de discussions qui se sont tenues, hein, qui se sont tenues dans les Orti Oricellari, à l'occasion de la venue d'un fameux condottiere de la maison Colonna, Fabrizio Colonna. Hein. Et Machiavel, dans son introduction au texte, explique que Fabrizio, secondo che venne adunque Fabrizio, e da Cosimo, donc c'est le Cosimino, le petit-fils de Bernardo, insieme con altri suoi fidati amici, fu ricevuto, tra i quali furono Zano Bibon del Monte, Battista della Palla e Luigi Alamani, giovani tutti amati da lui e dei medesimi studi ardentissimi, le buone qualità dei quali, perché ogni giorno e ogni ora per sé medesimi si lodano, ometteremo. Et donc, il y a tout ce groupe de personnes. Et c'est de ce groupe-là, par exemple, qu'il y a une des dernières conjurations républicaines en 1522, hein, qui est menée, qui avorte, et qui montre quand même que c'était un des lieux où l'attachement à l'idée de la liberté florentine restait vif. Hein. Et donc, c'est pas inintéressant de se rendre compte que c'est aussi à des gens de l'intérieur de ce cercle-là que Giulio de' Medici demande un avis. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période où il y a une hésitation chez les Médicis. Hein. Hésitation qui, évidemment, disparaîtra après la dernière République, parce que là, ça sera clair qu'il faut passer au stade supérieur du principat pour éviter que, dès que la moindre possibilité est ouverte, les républicains ne tentent de rétablir les institutions républicaines. Alors, un tout petit texte de Guicciardini qui revient à 1519. Donc, il y a vraiment une hésitation sur est-ce qu'on va rétablir complètement ou pas la République? Il y a une vraie hésitation en 1519, 1520, et c'est ça qui explique des textes comme le texte de Machiavel, Discursus Florentinarum Rerum. Hein. Et là, il y a même dans le passage de Guicciardini que vous pouvez lire, il y a même un petit passage, un petit morceau qui dit que il y a eu i consigli di alcuni che lo consigliavano che, non restando più eccetto lui alcuno dei discendenti legittimi per linea mascolina di Cosimo de' Medici, fondatore di quella grandezza, restituisse alla sua patria la libertà. E là il y a vraiment un rappel à la fois de la demande qui a été faite, qui est des avis qui soient donnés, et puis les conseils de certains, parmi lesquels donc il y a Niccolò Machiavelli qui conseille de restituire à la patria la libertà. Hein. Et là, c'est une incise et donc le pape ne décide pas ça, mais il envoie donc le cardinal Giulio de Medici all'amministrazione di quello Stato. No? Voilà. Une nouvelle fois, donc, les événements extérieurs, qui sont donc la tentative de mettre sur pied une ligue contre les forces de Charles Quint. Et donc vous rappelez que Guicciardini joue un rôle déterminant, qu'il est aux armées là avec en tant que lieutenant du pape, et vous vous rappelez que cette ligue, qui est donc la ligue de Cognac, et cette armée, qui est donc en partie dirigée par Francesco Guicciardini, ne vont pas empêcher cet événement décisif pour la période, qui est la prise de Rome le 6 mai 1527, par les troupes de Bourbon, qui sont composées pour partie de lansquenets allemands et pour partie de soldats espagnols. Au cours de la campagne, alors en fait la campagne c'est essentiellement la poursuite par l'armée de la Ligue de Cognac où il y a Guicharnin, la poursuite des troupes de Bourbon et le fait qu'ils n'arrivent pas à les rattraper et que donc Bourbon va arriver avant eux à Rome et prendre Rome. Mais à un moment donné, on pense que Bourbon va se diriger sur Florence et donc Guicciardini déplace un peu l'itinéraire de ses propres troupes pour protéger Florence. Et à Florence se passe un événement, un tumulte. Donc, on est fin avril 1527, on est le 26 avril 1527. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est donc une espèce de quelque chose qui ressemble fort à ces tumultes pour rétablir les institutions républicaines. Alors. En fait, l'affrontement armé est évité, en particulier par Francesco Guicciardini. Il y aura un accord entre les gens qui sont en quelque sorte retranchés dans le Palazzo della Signoria. Hein, mais les termes employés par Guicciardini montrent bien que il y a cette présence permanente de l'idéologie républicaine, de l'attachement à la Libertà Fiorentina, et donc que la moindre faiblesse dans le dispositif du système médicéen est l'occasion de quelque chose qui n'est pas loin d'un soulèvement. Hein. Et en tout cas, vous voyez que le terme soulèvement y est, mais là pour le moment c'est sollevazione d'animo. Hein. Essendo in Firenze grandissima sollevazione d'animo, quasi in tutto il popolo malissima contentezza del presente governo, e instando la gioventù che per difendersi, secondo dicevano dai soldati, puisqu'il y a ce risque que les troupes de Bourbon viennent à Florence, hein, et donc il y a une pression des jeunes florentins pour que i magistrati concedessino loro l'armi. Et innanzi se ne facesse délibération, donc au moment où la signoria doit se réunir pour savoir si on va ou pas armer la jeunesse de Florence pour que Florence puisse se défendre contre l'éventualité de la venue des troupes de Bourbon, il D 26, nato nella piazza pubblica, certo tumulto, quasi a caso, cette idée que il y a une espèce de situation qui est la sollevazione d'animo et la malissima contentezza del governo, hein, vis-à-vis du gouvernement, eh bien, il suffit d'un rien, d'une étincelle, pour que il se passe ce qui se passe, à savoir la maggior parte del popolo et quasi tutta la gioventù armata, hein, cominciò a correre verso il palazzo pubblico. Hein. Alors, voilà, c'est un coup pour rien, parce que Guicciardini arrive à apaiser les uns et les autres, trouve un accord qui assure l'impunité aux rebelles, mais on a, quelques jours avant, hein, une idée de ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait se passer si un grand événement survenait. Le grand événement survint. Là, le 6 mai, les troupes de Bourbon pénètrent dans Rome et mettent à sac la cité. Il faut le temps que ça sèche à Florence, mais quelques jours plus tard, l'opposition anti-médicéenne reprend, apprenant ça, donc reprend l'offensive. Les médicéens, et en particulier donc celui qui leur sert de dirigeant sur place, hein, le cardinale di Cortona, Silvio Passerini, impaurito per trovarsi abbandonato da cittadini che facevano professione di essere amici dei medici. Bon, il y a des remarques de Francesco Guicciardini qui montrent qu'il était quand même pas très courageux, le cardinale de Cortona, non lo muovendo alcune necessità, perché nella città erano molti soldati, il popolo spaventato per l'accidente seguito dell'occupazione del palazzo non avrebbe avuto ardire di muoversi, non gli fa riferimento al tumulto du 26 avril. E il cardinale di Cortona deliberò di cedere alla fortuna, convocato i cittadini, lasciò libera a loro l'amministrazione della Repubblica. Le quali cose concluse, il sesto decimo di maggio, egli con i nipoti se ne andò a Lucca. Et donc, que font les Florentins? Eh bien, ils remettent en place le gouvernement populaire, hein. Ils décident que le gonfaloniere di giustizia sera élu pour un an et qui peut être réélu deux autres fois, hein, donc jusqu'à trois ans. C'est un citoyen qui s'appelle Niccolò Capponi, hein, Niccolò Capponi, qui est nommé, qui est un républicain, mais un républicain modéré, hein, un républicain modéré. Il remet en place, voilà, le Consiglio Maggiore, nel quale risiedeva la potestà assoluta del deliberare le leggi e di creare tutti i magistrati. Et on remet en place. Alors, on a une situation, avec retour des institutions d'avant 1512, avec cette différence que le gonfalonier n'est élu que pour un an. Il y a en gros deux grands blocs, si on analyse les forces en présence, on a en gros deux grands blocs. D'une part, les modérés, enfin, hein, les modérés avec Capponi, et puis, donc derrière, toute une série des anciens partisans des Médicis que Capponi n'attaque pas, sur lesquels il fait un bloc en gros des républicains modérés, d'une partie en tout cas ceux qui sont restés, dont Guicciardini. Hein, dont Guicciardini. Qui d'ailleurs résume-moi en quelques mots comme ça les objectifs de Niccolò Capponi, hein, gli obiettivi principali, les objectifs principaux de Niccolò Capponi. Le premier étant difendere contro la invidia fresca quelli che erano stati onorati da Medici, anzi che coi principali di loro si comunicassero come con gli altri cittadini gli onori e i consigli pubblici. No? Politique qui est d'essayer de garder dans Florence les anciens partisans des Médicéens et de les traiter un peu. Hein, on reconnaît des choses que Savonarole avait faites au tout début, quand il disait non far sangue Firenze, ne pas appliquer la tradition, la mauvaise tradition florentine de l'exil et du sang contre les ennemis d'hier, mais au contraire, essayer de pratiquer leur intégration dans le nouveau fonctionnement politique. Voilà. Et alors, vous comprenez bien que, évidemment, tous les plus radicaux, tous les plus radicaux, hein, des républicains, trouvent que c'est un traître. Enfin, bon, ouais, il fait pas son. Qu'il accuse de continuer à discuter avec des gens comme Guicciardini, d'écrire au pape, etc. Et parmi ses adversaires radicaux, il y a en gros, là aussi, alors là, ça se divise en deux, là aussi, hein, il y a les Savonaroliens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment forte présence de la tradition savonarolienne, jamais renoncé à l'hypothèse qu'il y avait une vérité du discours de Savonarole, et qui voit dans les événements, qui voit dans le sac de Rome, la punition divine, dans le retour des institutions républicaines, la réalisation des prédictions savonaroliennes. Et puis, alors, on retrouve la même terminologie, donc ces Savonaroliens, on les appelle Piagnoni. Et puis, un groupe de républicains anti-médicéens farouches, et anti-médicéens au sens large, donc contre les Médicis, mais aussi contre les anciens partisans des Médicis, qui sont pour les exiler, les couper en petits morceaux, les hacher menus, prendre leurs biens, brûler leurs maisons, etc. Hein. Et qu'on appelle, avec la même terminologie qu'on a déjà vue entre 1494 et 1498, les enragés, gli arrabbiati. Hein, gli arrabbiati. Alors, ces arrabbiati l'emportent, hein, l'emportent au bout de 2 ans. C'est-à-dire que, donc, Capponi est élu en juin 1527, il est réélu en juin 1528, mais les Arrabbiati peuvent démontrer qu'il a entretenu une correspondance avec le pape, Clément VII, et donc il est obligé de se démettre, et à l'élection suivante, en avril 1529, c'est un des Arrabbiati, qui s'appelle Francesco Carducci, qui est élu. À partir de ce moment-là, l'affrontement armé avec les troupes pontificales est inéluctable. D'autant plus que Clément VII et Charles Quint ont trouvé un accord par le traité de Barcelone signé le 29 juin 1529. Et dans cet accord est explicitement prévu l'aide des Espagnols pour la reconquête de Florence par la famille Médicis. Alors, le siège de Florence commence en octobre 1529. Les Florentins en phase 2, donc des troupes espagnoles et pontificales, et dont au moins les troupes espagnoles sont extrêmement aguerries. Enfin bon, c'est vraiment des militaires qui font la guerre depuis des années. Ils sont dirigés par le seigneur d'Orange, Philibert de Châlons. Malgré ça, les Florentins vont résister donc de octobre 1529 à fin juillet, début août 1530. Hein. Bon, là, ils perdent leur commandant florentin, qui est un des derniers héros de la République, hein, qui s'appelle Francesco Ferrucci, est battu et tué dans un combat à Gavinane le 3 août 1530. Et à ce moment-là, les Florentins vont capituler. Ils vont capituler. Alors, il y a quand même quelques points sur lesquels il faut raisonner, sur lesquels avant nous a raisonné Francesco Guicciardini dans le premier ricordo de sa troisième rédaction, celle de 1530 justement, hein, qu'il écrit donc à un moment où Florence n'a pas encore capitulé, et sur lequel il essaye de comprendre ce qui se passe. Hein. Alors il y a d'autres endroits où il l'expliquera avec des termes moins théoriques. Il dira, les fous font parfois des choses plus grandes que les sages. Hein. Parce que voilà, ils vont au hasard, ils vont à la va comme je te pousse, et à la va comme je te pousse, la fortune joue parfois des tours étonnants. Les fous. Là, vous voyez que le concept qui est utilisé, c'est celui de ostinazione. Hein, l'ostinazione. Quello che dicono le persone spirituali, che chi ha fede conduce cose grandi, e come dice lo Vangelo, chi ha fede può comandare ai monti, eccetera, procede perché la fede fa ostinazione. Alors c'est intéressant et c'est vraiment des choses qu'il faudra reprendre un peu précisément quand on réfléchira au rapport entre religion et politique. Hein. Mais vous voyez là, il y a vraiment cette analyse-là, l'idée que la foi entraîne l'obstination. Pourquoi? Parce que fede non è altro che credere con opinione ferma e quasi certezza le cose che non sono ragionevoli. O se sono ragionevoli, crederle con più risoluzione che non persuadano le ragioni. Hein? Les ragioni, c'est donc les argumentations, éventuellement les arguments. Alors, on retrouve une terminologie, évidemment, celle du docteur en droit Francesco Guicciardini. Hein? Les argumentations juridiques. Chi adunque ha fede diventa ostinato in quello che crede. E procede al cammino suo intrepido e risoluto, sprezzando le difficoltà e i pericoli, mettendosi a sopportare ogni estremità. Donde nasce che, essendo le cose del mondo sottoposte a mille casi e accidenti, donc, hein, cette hypothèse de la présence permanente de la fortuna dans les cose del mondo, hein, c'est-à-dire fortuna au sens ce qui échappe à l'analyse rationnelle. Ce qui échappe à l'analyse rationnelle du politique. Può nascere per molti versi nella lunghezza del tempo aiuto insperato a chi ha perseverato nell'ostinazione, la quale, essendo causata dalla fede, si dice meritamente chi ha fede conduce cose grandi. Et après cette réflexion d'ordre théorique, enfin sur en gros la fonction de la pensée religieuse dans la politique, à cause justement du fait qu'on ne peut pas tout maîtriser par l'analyse rationnelle du politique. Hein. L'exemple qu'il donne hein, est Esempio di nostri ne grandissimo, questa ostinazione dei fiorentini, che essendosi contro a ogni ragione del mondo messi a aspettare la guerra del Papa, imperatore, senza speranza di alcun soccorso di altri, disuniti e con mille difficoltà, hanno sostenuto in sulle mura già 7 mesi gli eserciti, e quali non si sarebbe creduto che avessino sostenuto 7D e condotte le cose in luogo che, se ne vincessino, nessuno più se ne maraviglierebbe, dove prima da tutti erano giudicati perduti. E questa ostinazione ha causato in gran parte la fede di non poter perire secondo le proiezioni di Fra Geronimo da Ferrara. Après donc la réflexion générale, l'exemple, l'obstination causée par la résurgence enfin de la force du message chavanorien. Quelque chose qu'on pourrait nommer les armes qui viennent de la prédiction, les armes qui viennent de la simple parole donnant sens. Dans une terminologie plus 20e siècle, on pourrait dire la force de l'idéologie, enfin. La force de l'idéologie, c'est ça que pointe Guicciardini. Et ce qui pointe, c'est aussi là, des choses qu'on peut dire concrètement sur la façon dont un certain nombre de choses ont été mises en place par les républicains florentins qui expliquent leur cette incroyable résistance, qui fait qu'après, voilà, ça reste comme espèce de comme ça, de mythe de la puissance de la République, de la force, de l'idée républicaine. Mais ça s'appuie sur la mise en place d'une milice citadine, pensée par qui ? Par quelqu'un qui a été un des interlocuteurs de Machiavel au moment de l'époque, à l'époque des Orti Oricellari, Donato Giannotti, met en place la milice. Milice à laquelle on va prêcher, c'est des discours exaltant la tradition républicaine qui leur sont faits, mais qui leur sont faits dans des églises. Et c'est décidé par une loi que dans les principales églises de chacun des quartiers de la cité, eh bien, on va réunir les jeunes qui font partie de la milice citadine et on va leur tenir des discours faits par d'autres jeunes particulièrement aptes à brosser des tableaux épiques. Et puis, ce lien extrêmement fort et déterminé dès le début de cette nouvelle expérience républicaine, ce lien extrêmement fort de la République et de la religion, avec là aussi une loi qui proclame le Christ roi de Florence. Christ est proclamé roi de Florence le 9 février 1528. Et les Florentins devenant l'eletto popolo di Gesù Cristo. Voilà. Et vous voyez que c'est fait, et donc 9 février 1528, c'est fait avant même que ce soit les plus radicaux qui dirigent la République. C'est à ce moment-là Niccolò Capponi qui est gonfalonier. Et oui, il y a vraiment voilà, une espèce d'héritage très, très surprenant dans cette Seconde République, le double héritage de la pensée militaire machiavélienne et de la force obstinée qui naît de la croyance dans les prédictions de Savonarole. Cette république, elle est sous ce double et incroyable patronage de Savonarole et de Machiavel. Alors, comme... Comme, évidemment, le discours épique, l'obstination qui naît de la foi, la force de la tradition, de la liberté, etc., c'est fort, ça permet de tenir 8 mois quand on pensait que ça ne tiendrait pas une semaine, mais enfin, bon, il y a un moment où, les rapports de force l'emportent sur l'obstination. Et donc après la défaite et la mort du commandant républicain Ferrucci à Gavinane, il devient clair que la résistance est inutile, enfin, et pourrait amener à la destruction de la cité, d'autant plus que le capitaine, la mercenaire des troupes de la République s'appelle Malatesta Baleone, et, hein, prouvant a posteriori la justesse de ce qu'a dit Machiavel sur les troupes mercenaires, déclare aux républicains florentins que ça va bien comme ça, on a perdu, on va pas se faire couper en morceaux en plus. Hein. Et donc, il déclare clairement qu'il ne mourra pas pour la cité. Donc les Florentins capitulent, hein, ils signent leur reddition, en faisant inscrire clairement dans les clauses que la liberté de la cité sera sauvegardée. Hein, sera sauvegardée, marqué explicitement « que si a conservata la libertà de la città ».« Que si a conservata la libertà ». Alors, le 20 août, hein, de nouveau, on nous rejoue le Parlamento, la balille, et le retour à la forme antérieure. Bon, Bartolomeo Valori, qui était donc le commissaire apostolique, hein, qui représentait donc le pape dans l'armée, intese aussi comme Malatesta, c'est donc ce Malatesta Baleone qui voilà, démontre qu'on ne peut pas faire confiance aux troupes mercenaires, hein, donc il se met d'accord avec lui, parce qu'il pense qu'il y a une chose, c'est à retourner dans sa ville de Perugia, hein, ce bon Malatesta Baleone. Convocato in piazza il popolo secondo la consuetudine antica della città a fare parlamento, cedendo a questo i magistrati e gli altri per timore, hein, donc on retrouve vraiment, hein, c'est une espèce de rejeu de situation qu'on a déjà vu, hein, la crainte des hommes armés, induce nuova forma di governo, dandosi per il parlamento autorità a 12 cittadini che aderivano ai medici di ordinare a modo loro il governo della città, donc la balie, hein, là, mais encore plus restreinte que les autres fois. L'autre fois, c'était 50, là, il n'y avait plus que 12. C'est vraiment que ceux dont on est sûr à 100%, hein, che lo ridussero a quella forma che soleva essere innanzi all'anno 1527. Et évidemment, abolition du Grand Conseil. Abolition du Grand Conseil. Alors, dernier moment, hein, qui donc un peu en dehors de la période qu'on s'était, nous, définie, hein, puisque notre période, nos textes, ils vont jusqu'à 1530, enfin voilà, hein, même un peu avant, mais enfin pour que vous ayez l'idée de la fin, là, vraiment c'est le processus de fin de la République, mise en place définitive du Principat des Médicis à Florence. Bon. Donc là, c'est très rapide, hein, puisque c'est simplement que vous ayez les grands traits de cette histoire. Donc, tout de suite après ce Parlamento et cette tradition, cominciarono i supplizi e le persecuzioni dei cittadini. C'est assez simple, c'est-à-dire que oui, vous inquiétez pas, on va vous garder la République, hein. Dès que c'est fait, cominciarono i supplizi e le persecuzioni. Voilà. Hein. Alors, avec un texte, c'est quand même. C'est là qu'on voit vraiment chez Guicciardini, c'est aussi un peu pour ça, parce que c'est pas un scoop, hein, de penser que, évidemment, dès le jour d'après le Parlamento, tous ceux qui avaient vraiment été à la tête de la résistance des républicains, ils ont commencé à ramasser, hein, à se retrouver en prison, à être exécutés, etc. Mais cette présence chez quelqu'un qui, on va le voir encore une fois, est quand même un des grands serviteurs, en tout cas des papes Médicis, et qui va jouer un rôle important hein, dans la mise en place du système médicéen en 1530, qui va être le porte-parole d'Alessandro de Medici contre les républicains florentins, justement, sur le commentaire de la clause de l'acte de reddition précisant que la liberté de Florence devait être maintenue, eh bien, quand il écrit, entre 37-40, l'histoire d'Italie, il dit qui era il governo, quelli in mano di chi era il governo, interpretorono, osservando forse la superficie delle parole, ma cavillando il senso, che il capitolo per il quale si prometteva la venia chi avesse ingiuriato il pontefice e gli amici suoi non cancellasse le ingiurie e i delitti commessi da loro nelle cose della Repubblica. Donc il dit, hein, les choses telles qu'elles sont. Nous avons, parce qu'il est parmi ces gens qui ont en main le gouvernement, hein, nous avons cavillato il senso. Hein. Nous avons trompé les gens qui ont signé l'acte de reddition avec nous. Hein. Il y a vraiment une nouveauté dans la façon d'écrire l'histoire, qui n'est pas simplement raconter l'histoire en faisant l'histoire uniquement hein, à l'aune de ses propres de ses propres choix, mais de la faire avec une force objective, enfin. Hein, voilà. Bon. Alors. Il en tire les conclusions, enfin, hein, voilà. On est dans une situation où les Médicis ont pratiquement le pouvoir, un pouvoir quasi-regent, hein, c'est de la terminologie qu'on trouve aussi chez Machiavel, en particulier dans les discours, plus que dans le Prince, hein. Restò più libera e più assoluta e quasi regia la potestà dei Medici in quella città. Bon. L'intention du pape, qui est là, donc, résumée par Benedetto Vars, qui est donc un contemporain également, hein, qui sera l'historiographe officiel de Côme Ier, rapporte donc dans ses Storie Fiorentine, qui ont été publiées qu'au XVIIIe siècle, comme vous le voyez, que les intentions politiques du pape étaient qu'il voulait che si credesse da forestieri la guerra sia stata non tra lui e la città, ma tra i nobili e la plebe, intendendo per plebe tutti coloro i quali, ancora che nobilissimi, opposti sceglievano. Donc, l'intention du pape s'explicite de la façon suivante. Le pape ne voulait pas être le seul à proposer, en tout cas, il ne voulait pas paraître être le seul à proposer la rupture radicale avec la tradition républicaine en mettant en place le Principat. Et du coup, il va demander des avis. Il va demander des avis. Hein? Et il demande des avis, alors on ne s'étonnera pas qu'il demande des avis à Francesco Guicciardini, à son frère Luigi Guicciardini, à Francesco Vettori, à Roberto Acciaioli, sur cette question-là, sur la question est-ce qu'on peut dès maintenant ou pas mettre en place un principat et abandonner même formellement, enfin même la seule présence formelle des institutions républicaines. Alors, de tous ces textes, je n'ai tiré que deux petites citations, hein, deux petites citations. l'une de Vettori, l'une de Guicciardini, hein, là c'est Vettori Francesco, hein, Francesco. Avec, siamo necessitati di venire a un modo che infatti Alessandro sia padrone, facci quello che vuole, e che alla città resti questo nome vano di libertà. Io, per uno, non farei distinzione più d'essere di governo di un altro, né in questo più larghezza o più strettezza. Io a condizione che l'effetto fosse tale che ci portasse più alla sicurezza di non essere cacciati di Firenze. Donc, vous voyez, c'est une façon de dire à la fois, bon, la question n'est pas au fond de savoir si on est, si ça s'appelle République ou principale, la question c'est que l'effet, hein, vous reconnaissez un des termes clés de toute la réflexion dans le dialogue del Reggimento di Firenze. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est l'effetto. Et c'est aux effetti qu'on doit juger les formes de gouvernement et les gouvernements. Effetti, là aussi. Mais là, l'effetto est clair. Il est clair. Hein? Sicurtà. Che Alessandro sia padrone e facci quello che vuole. C'est ça l'effetto. Après, le reste, à la limite. Che alla città resti questo nome vano di libertà. E allora, ou bien, je crois pas que la question c'est de discuter sur que doit être le gouvernement et de faire des distinctions là-dedans. Ce qui compte, c'est les faits. Vous voyez bien que d'une certaine façon, ça dit, au fond, si on gardait au moins le nom vano di libertà, ça serait pas plus mal. Hein? Vous voyez bien que ça dit ça. Hein, vous voyez bien qu'au fond, y compris ceux qui sont prêts, ils sont prêts à dire, écoutez, voilà, si vous voulez mettre le principal, mettez le principal. Mais c'est une façon encore de reproposer l'hypothèse de la non-rupture radicale avec la tradition républicaine. Bon. Finalement, hein, donc après cette période de réflexion, finalement, en avril 1532, eh bien, là c'est un moment extrêmement important du point de vue symbolique. Hein. Il y a donc une loi proposée par donc la Balie, hein. Dans ce petit groupe, il y a Francesco Guicciardini, Francesco Vettori, Palla Rucellai, Matteo Nicolini, Roberto Pucci, hein, et propose donc une loi. Provisio et creatio novi status rei publicae florentine. Hein? Un nouvel état. Nuovo stato. Et qu'est-ce que ça prévoit cette loi? Qu'est-ce que ça met en place cette loi? Eh bien, la suppression de la Signoria et du gonfalonier. Alors, quelques autres données institutionnelles, mais enfin, c'est quand même la suppression de la Signoria et gonfalonier, là, c'est vraiment la fin, hein, bon, grand conseil, c'est la fin de ce moment de la République, la suppression de la Signoria et gonfalonier, c'est la fin vraiment de la longue tradition, hein, depuis la fin du XIIIe siècle, quoi. Depuis la fin du XIIIe siècle. Ouais. Y a un conseil des 200 purement consultatif, un conseil des 48, hein, vous voyez que ça se restreint vraiment, où sont mises aux voix les lois. Hein, c'est ce conseil des 48 qui doit vincere le provisioni attenenti al comune, così di denari come di qualunque altre cose. Hein. Donc, c'est le droit qui doit valider les lois, les propositions de loi, etc. C'est ce conseil des 48, lequel nomme quatre conseillers du duca, duca della Repubblica Fiorentina. E ce duca, donc, Alessandro de Medici. Voilà. Un point intéressant, parce que c'est un texte de Filippo Dainerli qui avait été envoyé à Florence, en gros, pour convaincre hein, quei cittadini, c'est ce Vettori, ce Guicciardini, etc., qui, tout en disant, oui, au fond, faites ce que vous voulez pourvu qu'il y ait la sécurité, continuait à dire, mais quand même, gardons au moins une norme vaine des libertés. Hein. Et là, voilà les instructions de Clément VII à Filippo Dainerli, tel que Filippo Dainerli les rapporte. Di a quei cittadini che pensino a un tal modo di governo che egli corrano in esso i medesimi pericoli che la casa nostra, e che lo disegnino di tal maniera che alla casa nostra non possa più avvenire quello che nel 1494 e nel 1527 avvenne, che noi soli ne fussimo cacciati, e quelli che con noi godevano i comodi dello Stato restassero a casa loro come restarono. Però bisogna che le cose s'acconcino in modo di tal maniera che dovendosi perdere lo Stato, noi ed essi ne andiamo tutti di compagnia. Hein? Là, c'est vraiment la clarté de la mise en place d'un bloc, voilà. Avec l'hypothèse qu'ils peuvent encore le perdre. C'est quand même, on l'a perdu deux fois, pourquoi pas une autre fois. Hein? Mais cette fois-ci, on va faire en sorte que les institutions qu'on met en place vous empêchent de rester comme t'es resté, Guicciardini, en 1527. D'accord, il est parti quand il y a eu les Arabiates, il est resté les deux premières années quand il y avait Capone. Hein. Là non, là, voilà, hein, c'est vraiment très très clair, c'est une logique de parte, hein, logique partigiana. Voilà. Bon, vous voyez que là, tout est à peu près mis en place. Donc il faut simplement savoir qu'il y a eu, pendant tout un temps, un groupe d'opposition, hein, avec des républicains, mais aussi des grandi mécontents de la politique d'Alessandro de Medici. Hein, parmi lesquels il y a, par exemple, Ippolito de Medici, hein, un des autres descendants, là. Donc il y a à la fois des gens qui sont là parce qu'ils sont vraiment des républicains exilés et qui portent encore les espoirs de voir renaître une nouvelle fois leur république. Jacopo Nardi, Filippo Parenti, Galeotto Giugni, mais aussi donc des gens qui ne sont avec eux que parce qu'ils sont opposés à Alessandro de Medici. Alors, le moment... Un des tout derniers moments, c'est donc que ce groupe-là, ce groupe d'opposition à la politique d'Alessandro de Medici, essaye d'agir par des voies juridiques, en portant plainte en décembre 1535 devant l'empereur Charles Quint, et ils font valoir que dans les clauses de l'accord de reddition, la clause sur « Cassi a conservata la libertà » n'avait pas été respecté. Hein. Et alors là, il y a la réponse mérite d'être lue, parce que c'est bien la fin, hein. On est après la fin institutionnelle de la Signoria et du Gonfalonier, on a la fin sur la fin d'un concept clé de la longue période républicaine, qui est la libertà. La libertà de la bouche même de quelqu'un qui en a été un des grands porteurs, hein, de cette aspiration-là à la liberté, Francesco Guicciardini, eh bien, ça devient ce qui est inscrit là dans ce texte, qui est donc le texte de réponse d'Alessandro de Medici, rédigé par Francesco Guicciardini. Il vero senso di questo capitolo è che a sua maestà fu dato libera facoltà di ordinare o il governo popolare, o quello dei Medici, o qualunque altro più gli piacessi, d'un modo non potessi, per mezzo di questa remissione, mettere la città, stata sempre libera, sotto dominio forestiero, privata dei suoi privilegi, preeminenze e antiche libertà. Donc, des deux sens, hein, indissolublement liés jusque-là, de libertà, régime républicain et autonomie, hein, le fait de ne pas avoir, de ne pas être soumise à une autre puissance, eh bien, il ne reste plus que le deuxième sens, hein, et donc on assiste là, avec cette querelle des Foruchiti, là, à la mort, hein, d'un des concepts centrés sur, centrés de la tradition républicaine. Bon. La question politique est reposée une dernière fois après la mort brutale d'Alessandro, tué par Lorenzino de' Medici, le 7 janvier 1537, hein, c'est le Lorenzaccio de la pièce de Musset, qui dira dans son apologie dico dunque che il fine mio era di liberare Firenze. Et l'ammazzare Alessandro era il mezzo, hein, le droit de tuer les tyrans. C'était un tyran, je l'ai tué. Bon, mais voilà, il y a un petit débat, mais finalement, et entre autres sur proposition de Guicciardini et Vettori, c'est Cosimo, descendant de la branche cadette des Médicis et fils du condottiere Giovanni dalle Bande Nere, hein, qui est élu le 9 janvier 1537, capo et primario del governo della città. Il y aura une dernière tentative militaire de ce groupe des Fuoriusciti, mais ils subiront une défaite à Montemurlo le 1er août 1537. Leurs principaux chefs sont capturés ou tués. L'un de ceux des principaux chefs de ces exilés, Filippo Strozzi, se suicidera en prison l'année suivante, le 1er août 1538. Cosimo va être nommé Duca di Firenze par Charles Quint en septembre 1537. Il ne fera pas la politique favorable aux Grandi qu'avaient espéré Guicciardini et Vettori en proposant son nom comme comme successeur. Sous son gouvernement, la cité-État devint un État territorial et lui-même fut couronné grand-duc de Toscane le 5 mars 1570. On a donc fini cette comme ça, promenade dans, dans l'histoire de Florence. À partir du prochain cours, nous prendrons les textes et le premier texte que nous prendrons sera le Trattato de Girolamo Savonarola.